Eh bien, mes amis, avant toute chose, nous voulons encore implorer le secours de notre Dieu. Oh Dieu, il nous est doux de penser que tous ensemble, nous sommes enveloppés par ton regard d'amour. Et tu sais que celui qui est au centre de nos entretiens, c'est ton Fils unique, ton bien-aimé, en qui toi tu as trouvé tout ton plaisir, que dans cette heure, nous soyons conscients de la réalité de la présence de Jésus, qui a dit avant de quitter cette terre, « Je suis avec vous tous les jours ». Nous savons que tu es là, Seigneur Jésus, par ton esprit, et nous te demandons que par ton esprit, tu nous éclaires, car seul ton esprit peut sonder toutes les profondeurs de Dieu. Et nous désirons descendre en ces profondeurs afin que nous soyons tout remplis de tes propres pensées, ô Dieu, pour notre bonheur et pour le bonheur de tous ceux qui nous entourent. Et cela pour ta seule gloire. En Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, en ce matin du 15 février 1986, nous abordons le thème qui a été introduit hier soir, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et dans notre introduction hier soir, nous vous avons montré où nous avions trouvé cette parole. C'est une parole que Philippe, qui est appelé l'évangéliste de la Samarie, l'un des sept diacres de Jérusalem, c'est une parole qu'il a prononcée dans sa rencontre avec l'eunuque d'Éthiopie, et nous avons lu ce récit dans le chapitre 8 du livre des Actes. La réponse, c'était comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Et ce matin déjà, je vous ai cité quelques versets qui nous montrent les obstacles que nous rencontrons quand il est question de lire. J'ai cité le chapitre 29 d'Ésaïe, verset 11e, où il nous est dit que la vision de tout peut nous être comme un livre scellé, cacheté, que l'on donne à quelqu'un qui sait lire et qui répond: je ne le puis parce que ce livre est cacheté ou scellé. Puis, il y a un autre obstacle, si on le donne à quelqu'un qui nous répond, je ne sais pas lire. Donc, il faut savoir lire. Mais il y a un autre obstacle, c'est celui que signale l'apôtre Paul dans le chapitre 3 des Corinthiens, de la deuxième épître. Il dit que quand on lit l'Ancien Testament, sans connaître Jésus, eh bien, il y a un voile qui reste sur les paroles que nous lisons. C'est au verset 14e de la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3e. Il est dit: leur entendement ou leur compréhension, leur intelligence a été obscurcie, car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'Ancien Testament, ce voile demeure sans être levé, il ne prend fin qu'en Christ. Ce n'est que par Jésus que le voile qui couvre
les instructions de l'Ancien Testament est vraiment ôté. Puis, il y a encore un besoin qui se fait sentir, c'est que pour que le voile soit ôté et que nous entendions parler du Christ, puisque c'est en Christ que ce voile est ôté, qu'est-ce qu'il faut ? Que quelqu'un soit envoyé, que quelqu'un prêche. Donc, savoir lire, deuxièmement, connaître Jésus, mais pour connaître Jésus, l'apôtre Paul nous le dit dans le chapitre 10 des Romains, il faut que quelqu'un prêche. Alors, je vous cite là le verset 14 du chapitre 10 des Romains. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Nous avons vu que l'eunuque savait lire, mais ce livre qu'il lisait, il ne le comprenait pas. C'était le rouleau d'Ésaïe. Alors, pour qu'il comprenne, il fallait qu'on lui annonce Jésus. Il fallait qu'il connaisse Jésus. Mais comment allait-il connaître Jésus? Il a fallu que quelqu'un soit envoyé, et ce quelqu'un, ça a été Philippe, qui s'est laissé diriger par le Seigneur. Alors, pour nous qui allons maintenant nous pencher sur ce chapitre 13, nous allons faire une découverte. Et je voudrais tout de suite vous avertir que vous allez peut-être devoir corriger les pensées que vous aviez sur ce chapitre. C'est ce que nous trouvons dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Au chapitre 3, il nous est dit ce que fait la parole de Dieu. Et vous ne devez pas avoir peur si cela se produit dans ces journées. Versets 16 et 17 du chapitre 3 de la deuxième épître à Timothée, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Donc nous allons chercher à comprendre les textes par l'écriture elle-même, qui va nous enseigner, qui va nous convaincre, nous espérons que vous aurez des convictions concernant ces textes, et il est dit qu'il va nous corriger, parce que peut-être nous avons des idées fausses, une interprétation fausse de ces textes. Alors nous allons nous laisser corriger et instruire dans la justice, pour que nous devenions des hommes et des femmes de Dieu accomplis, c'est-à-dire rendus propres pour toute bonne œuvre, pour avoir un témoignage vraiment efficace dans ce monde, puisque nous avons à être toujours prêts à répondre avec douceur et crainte à quiconque nous demande la raison de l'espérance qui nous habite. J'ai dit que pour lire l'Ancien Testament, il faut connaître Jésus. Tant que nous ne connaissons pas Jésus, nous ne pouvons pas découvrir les richesses de l'Ancien Testament. Mais quand on lit le Nouveau Testament, nous nous apercevons qu'il y a aussi des passages difficiles à comprendre et que nous aurions besoin qu'on nous explique, nous aurions besoin d'un guide, comme le disait l'eunuque, comment comprendrais-je si quelqu'un ne me guide? Et dans les évangiles même, comme aussi dans les épîtres de Paul, il y a des choses qui nous paraissent difficiles. Je pense à cette réflexion des auditeurs de Jésus qui lui disent au chapitre 6 de Jean, cette parole est dure, qui peut la comprendre? Quand il leur parle de la nécessité de manger sa chair et de boire son sang, ils ne comprennent pas. chapitre 6 de Jean, verset 60. Donc, il y a des paroles qui sont difficiles à comprendre même dans les évangiles. Sans parler de ce que Pierre nous dit des écrits de Paul dans son épître, la seconde épître de l'apôtre Pierre, il signale qu'il y a des choses difficiles à comprendre dans les épîtres de Paul. Mais ce n'est pas parce que ces choses sont difficiles à comprendre qu'il nous faut fermer le livre. Au contraire, il nous faut surmonter la difficulté. Alors, nous arrivons maintenant à notre chapitre 13 de cet évangile de Matthieu, où nous trouvons, comme vous aurez l'occasion de vous en apercevoir, sept paraboles, ou sept comparaisons. Une parabole, c'est donc une comparaison, ou une allégorie, et qui cache, disions-nous, certains enseignements, qui, une allégorie, exprime donc une idée par une image, par un tableau qu'il nous faut vraiment saisir, découvrir. Et ces paraboles de Matthieu 13, comme vous l'avez lu au verset 11 de ce chapitre, sont appelées aussi des mystères. Mystères du royaume des cieux. Alors, on peut tout de suite se poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Un mystère, c'est quelque chose de secret, hein? C'est quelque chose de caché. Mais, dans le Nouveau Testament, nous apprenons qu'un mystère, c'est une vérité qui était cachée autrefois, mais qui a été révélé. De sorte que quand il est parlé d'un mystère, dans le Nouveau Testament, il est toujours question d'une vérité qui pendant longtemps a été cachée et qui a été soudainement révélée. Alors, si vous vouliez étudier les mystères du Nouveau Testament, vous pourriez en trouver plusieurs. Et ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est que ces mystères nous ont été révélés et nous sont révélés par le Saint-Esprit. Donc, pour comprendre ces mystères, il nous faut avoir le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il nous faut être enfants de Dieu. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne sommes pas enfants de Dieu et alors nous ne pouvons pas comprendre ces mystères. Il y a plusieurs mystères, j'en cite quelques-uns. On en a compté au moins 10 mystères dans le Nouveau Testament. Il y a le mystère de la piété, c'est l'incarnation du Seigneur. Dieu manifesté en chair, c'est appelé un mystère. Comment se fait-il que Dieu qui est esprit a pu se manifester en chair? C'est ce que Paul appelle le mystère de la piété. Il y a aussi, en opposition au mystère de la piété, le mystère de l'iniquité. Il y a le mystère de l'Église. Et ce mystère, nous apprenons que c'est à Paul particulièrement qu'il a été révélé. De sorte que si vous voulez vraiment comprendre ce qu'est l'Église, il vous faut lire les écrits de qui ? De l'apôtre Paul. La petite carmélite de Dijon, Élisabeth de la Trinité, a écrit une chose que j'aime beaucoup. J'ai compris en lisant les épîtres de Paul que lui nous dit qu'il a reçu la révélation du mystère de l'Église. Alors, si je veux comprendre l'Église, je ne veux plus pour maître que l'apôtre Paul, qui a reçu la révélation de ce mystère. Alors, elle s'est mise à l'école de Saint-Paul. Si vous voulez comprendre le mystère de l'Église, mettez-vous à l'école de Saint-Paul, qui lui-même était à l'école de Jésus. Il dit, moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc, un mystère, c'est un secret, mais qui peut nous être révélé. Il y a quelques conditions à remplir pour que nous ayons la compréhension de ce mystère. Alors, nous allons prendre maintenant verset par verset. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Ce même jour, si nous voulons nous souvenir de ce qui s'est passé, il suffirait de lire le chapitre précédent. Et qu'est-ce que nous verrions? Eh bien, nous verrions que dans le chapitre précédent, les Juifs, pour lesquels Jésus était venu, puisqu'il était juif, il est venu d'abord pour révéler la vérité à son peuple, aux Juifs. Les Juifs, quand ils ont vu Jésus, qui était un des leurs, et qu'ils ont vu les miracles qu'il faisait et la puissance qu'il avait, qu'est-ce qu'ils ont dit? À qui ont-ils attribué la puissance de Jésus? À Satan. C'est dans le chapitre précédent qu'il est dit qu'ils ont dit, pour donner une explication de cette puissance de Jésus, la puissance qu'il a pour faire des miracles, elle vient du diable. Donc, son peuple, les siens, ne l'ont pas reconnu. Il s'est senti rejeté des siens. Il est dit dans le chapitre 1er de Jean que Jésus est venu chez les siens, mais que les siens ne l'ont pas reçu. Et il était tellement venu d'abord pour les siens que vous pouvez lire dans l'évangile de Matthieu, il avait même interdit à ses disciples d'aller apporter l'évangile où? Aux Samaritains et aux païens. Il ne devait pas apporter l'évangile aux païens et aux samaritains. Il devait aller d'abord vers les brebis perdues d'Israël. Jésus était venu d'abord pour Israël. Mais Israël ne l'ayant pas reçu, les Juifs l'ayant rejeté, Jésus, qui est venu dans sa maison, va sortir, si nous voulons prendre le texte et en chercher une application spirituelle, il va sortir de la maison. Quelle maison? La maison d'Israël. Pas simplement la maison dans laquelle il se trouve. Mais Jésus se sent rejeté. Et il éprouve aussi que même sa famille, selon la chair, ne le comprend pas. C'est ce que vous avez au verset 46 du chapitre précédent. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, il n'avait pas encore abandonné la foule, il s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Et quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Puis, il ajoute, verset 50, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Le Seigneur élargit le cercle. On fait sa parenté, les siens, ce ne sera plus un peuple particulier, mais quiconque dans le monde fait la volonté de son Père. Il s'ouvre donc au monde. Et ce qui est frappant, c'est que la mère est toujours employée pour désigner les peuples, les nations, les langues. Alors, vous voyez, verset 13, chapitre 13. Ce même jour, donc après avoir souligné que, au fond, sa vraie famille, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, Jésus sort de la maison. Il n'est plus seulement pour la maison d'Israël, mais il s'asseye au bord de la mer, il va donc apporter l'évangile aux foules, qui ne sont plus simplement des Juifs, c'est encore là des Juifs, mais il y a déjà l'annonce que l'Évangile ne serait plus simplement annoncé à un peuple, mais au monde entier. Verset 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Donc, vous voyez que le Seigneur envisage que l'Évangile sera propagé dans le monde entier. C'est là cette image de la barque. Il n'est plus sur la terre directement d'Israël, il est maintenant assis sur les flots. Et c'est très frappant. D'abord, dans le sermon sur la montagne, il était assis sur une montagne, mais sur la terre. Il enseignait ses disciples et le peuple d'Israël. C'était donc l'annonce que Jésus faisait de la vérité à son peuple. Puis, il a proclamé, après le sermon sur la montagne, il a fait proclamer l'Évangile par ses disciples au monde. Donc, la justice du royaume a été montrée dans le sermon sur la montagne. Puis après, la proclamation du royaume, elle a été faite d'abord par les disciples qu'il a envoyés dans les villes d'Israël. Et puis, maintenant, alors, il va nous expliquer le mystère du royaume. C'est les trois grandes parties de l'évangile de Luc. Justice du royaume, telle qu'il l'a défini dans le sermon sur la montagne. Proclamation du royaume, dans le chapitre 10, quand il envoie les disciples pour annoncer l'évangile, et même il leur donne une puissance pour faire les miracles. Et puis maintenant, ici, il va nous parler des mystères du royaume. Alors je vous ai dit qu'il y avait différents mystères. Et ici, c'est ce mystère qui est des fois difficile à comprendre. Pourquoi le royaume de Dieu ne s'est-il pas établi au moment où Jésus était là? Si vous vous souvenez de la prédication de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit pour commencer aux foules qui venaient auprès de lui au Jourdain? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Et pourquoi est-ce qu'il était proche? Parce que le roi était né. Le roi était venu. Le royaume de Dieu était tout proche. Alors Jean-Baptiste, le précurseur, l'annonce. Mais il leur dit que pour recevoir le roi, qu'est-ce qu'il faut? Se repentir. Il faut d'abord se repentir. Sans ça, vous ne recevrez pas le roi. Il fallait qu'il passe par la repentance. Et Jésus lui-même, après s'être fait connaître à Jean-Baptiste et avoir été lui-même baptisé, s'est mis à prêcher, après avoir vaincu toutes les tentations au désert, avoir vaincu les tentations de Satan. Qu'est-ce qu'il disait, Jésus, en annonçant l'Évangile? Le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous, croyez à l'Évangile. Pourquoi est-ce que le royaume de Dieu s'était approché? Parce que Jésus était là. Jésus était là. Donc, le royaume pouvait commencer sur la terre. Et ça devait être, alors, dans Matthieu, qui a un caractère spécial, ça devait être le royaume des cieux. Le règne des cieux devait pouvoir commencer sur la terre. Puisque Jésus venait d'où? Du ciel. Le règne des cieux pouvait commencer puisque le roi était là. Des mages étaient venus de l'Orient pour l'adorer. Alors, pourquoi est-ce que ce règne n'a pas commencé? Parce que vous ne voyez pas que le règne a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelque chose de très mystérieux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le règne ne s'établisse? Et que ce règne ne commence que dans les cœurs de ceux qui croiraient. Qu'est-ce qui s'est passé? le peuple qui devait recevoir le roi, c'était quel peuple? Les Juifs. Les Juifs ne l'ont pas reçu. Alors, puisque les Juifs ne l'ont pas reçu, tous ceux qui le recevraient pourraient devenir membres de ce royaume. À tous ceux qui l'ont reçu, savoir ceux qui croient en son nom, il leur serait donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu et de faire partie de ce royaume. Mais dans l'évangile de Matthieu, et qui a justement pour thème de nous présenter Jésus-Christ comme le roi, tandis que Marc nous le présente plutôt comme le serviteur de l'Éternel, tandis que Luc nous le montre surtout dans son humanité comme étant réellement un homme, alors que Jean nous le montre comme étant le Fils unique de Dieu, comme étant Dieu lui-même, Matthieu, lui, nous le présente comme le roi, celui qui aurait dû être accepté, qui aurait dû être reçu, qui aurait dû régner et qui aurait établi le gouvernement du ciel sur la terre. Mais ça ne s'est pas fait. Pour quelle raison? Eh bien, c'est cela que nous allons voir. Pour quelle raison le royaume n'a pas pu être instauré? Parce que le roi a été rejeté. Et dans la période actuelle, nous sommes toujours dans le temps où le roi est rejeté. Le roi se trouve où? Dans le ciel. Et où sur la terre? Dans les cœurs d'individus. Mais il ne se trouve pas régnant sur le monde. Un jour, il y aura le règne du ciel sur le monde. Mais quand? Quand le Seigneur reviendra et établira alors en puissance, en justice et en gloire son règne. Alors ce sera le royaume des cieux dont parle le prophète Daniel. Un royaume qui ne sera jamais détruit et qui doit succéder à tous les règnes humains. Jusqu'à présent, nous voyons dans la prophétie de Daniel que le royaume avait été confié d'abord à un peuple qui s'appelait Israël. Mais ce peuple, au lieu de suivre les lois du Seigneur, est devenu infidèle. Et alors, le royaume a été donné, le règne a été donné non plus à Israël, qui aurait dû gouverner le monde, mais il a été donné aux nations, aux païens, pour un temps. C'est ce que nous voyons dans le prophète Daniel. Mais les nations qui se sont succédées et qui ont connu la puissance de Dieu, puisqu'il n'y a pas de règne sans que Dieu le veuille, se sont toutes conduites d'une façon de plus en plus abominable, comme des animaux. De sorte qu'on peut dire que tous les gouvernements qui se sont succédés sur la terre, que ce soit celui de le règne de Babylone, que ce soit le règne des Mèdes et des Perses, que ce soit le règne des Grecs, que ce soit le règne des Romains, ou ce qui va venir en finale, eh bien, tous ces règnes sont comparés à des règnes d'animaux. Et qui dit bête, qui dit animaux, eh bien, parle de violence, de cruauté et de férocité. Eh bien, ce que nous voyons sur la terre aujourd'hui encore, c'est la férocité, c'est la cruauté, de sorte qu'il n'y a pas encore eu de règne vraiment humain. Qui est-ce qui apportera un règne humain au monde? C'est le Seigneur Jésus. Ce ne sont pas les hommes. Finalement, nous voyons dans les visions de Daniel qu'après toutes ces bêtes, il apparaît dans le ciel quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, à un Fils d'homme, et c'est à lui qu'est donné le règne, la puissance et la gloire. Alors, dans sa première venue, Jésus, qui venait du ciel, n'a pas été reconnu par les siens. Et alors, c'est là qu'il va nous montrer ce qui va se passer. Verset 3. Il se tient donc sur la mer et il enseigne la foule. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Le lieu, d'abord, où le Seigneur annonce ces choses. J'ai parlé du moment, le moment où il annonce cela. Eh bien, ce moment, c'est quand, au fond, il se rend compte qu'il est rejeté par son peuple et qu'il souligne que ce ne sont pas les liens de la chair et du sang qui font qu'on est des siens. Mais qu'est-ce que c'est qui fait qu'on est des siens? La foi. La foi en lui. C'est de croire en lui qui fait de nous les frères et les sœurs du Seigneur. Ce n'est pas les liens de la chair qui font de nous des enfants de Dieu, mais c'est la foi au Seigneur Jésus. Alors, qui sont les frères du Seigneur? Ce sont ceux qui croient. Maintenant, le lieu où il va nous donner cette première parabole du Seigneur, du semeur, le lieu, c'est donc le rivage de la mer de Tibériade, ou comme on l'appelait aussi, le lac de Génézaret. Alors, vous pouvez voir ce rivage. J'y suis allé assez souvent au bord de ce lac et on voit des bouquets, des bosquets de lauriers roses qui sont très embaumés, et on peut très bien se représenter cette foule qui le pressait tellement qu'il a dû se mettre sur une barque et se retirer un peu sur la mer pour pouvoir s'adresser à tout ce peuple qui avait donc des besoins spirituels. Et il commence par leur parler en parabole. Et c'est celle que vous venez de lire. Un semeur sortit pour semer. Alors je vous ai demandé, qui est ce semeur? J'ai bien dit ce matin, n'est-ce pas, qu'il n'était pas question d'étudier ce matin la parabole de Livrée. Vous n'aviez pas à vous intéresser à la parabole de Livrée maintenant, mais qu'il fallait quand même lire ces versets pour savoir qui était le semeur. Et qui est le semeur, selon vous? C'est Jésus. Le semeur, c'est Jésus. Celui qui sème, c'est Jésus. Et maintenant, quand on se pose la question, la semence, qu'est-ce que c'est? C'est, vous l'avez trouvé aussi, c'est la parole. Et ça, vous pouvez en être sûr, puisque c'est le Seigneur lui-même qui nous dit que la semence, c'est donc la parole. Donc, on sait de quoi il est question au sujet de cette semence. C'est la parole. Et le terrain, le champ, qu'est-ce que c'est? C'est le monde. Donc, l'évangile va être annoncé au monde entier. Au monde entier. Mais nous allons découvrir que dans le monde entier, ceux qui vont entendre cette parole sont comparés à quatre terrains. Et quand on est en Israël, ou dans ces pays d'Orient, et surtout à l'époque de Jésus, et on voit encore dans les pays arabes la même chose, eh bien, c'est pas du tout un terrain comme ceux que l'on rencontre dans nos pays. Quand on veut semer dans un champ, qu'est-ce que vous voyez? On délimite le champ, hein? On laboure le champ, et le champ est comme un rectangle ou un carré, c'est très bien préparé, de sorte que on ne sème que là où la charrue a passé, que là où les mottes ont été brisées. Il suffit d'être en avion pour se rendre compte justement de ces terrains qui sont préparés. Mais c'est pas du tout comme cela en Orient. En Orient, eh bien, le champ, il y a un peu de terre profonde, de terre qui a été vraiment labourée, mais juste à côté, il y a des endroits rocailleux, la terre est peu profonde, il y a des buissons d'épines, et puis il y a un sentier, un chemin qui traverse ce coin de terre. Et c'est ce que vous devez bien comprendre. Et alors, le semeur, ça se fait pas du temps de Jésus en tout cas, et puis on le voit encore maintenant, c'était pas des machines qui sèment bien à l'endroit où il faut, c'était l'homme qui avait son sac et qui prend sa semence et qui la jette. Alors, dans le geste auguste du semeur, comme le dit la poésie, eh bien, il y a des grains, donc, il doit semer dans la bonne terre, mais forcément, comme il fait ce geste-là, quelques grains tombent sur le sentier, d'autres dans des endroits où la terre est peu profonde, et d'autres encore au milieu d'un buisson d'épines. Ce n'est pas parce qu'on veut semer dans les épines, mais le terrain est comme cela. Donc, il y a certains obstacles qu'il faut bien voir. Et c'est de ces obstacles que Jésus va nous parler pour nous montrer comment des âmes ont de la peine ou ne veulent pas recevoir sa parole. Je pense que ça devient clair. C'est parabole du semeur n'offre pas beaucoup de difficultés. Quand vous comprenez ce qu'est un champ en Palestine, ou disons ce qu'était un champ en Palestine, parce que là où les Juifs sont, eh bien maintenant, ils ont les machines, ils labourent, et ils ne jettent pas la semence n'importe où, parce qu'ils veulent que cela produise. Alors, vous avez constaté quels sont les obstacles pour que la semence produise. Il y a d'abord les oiseaux. Quand la semence tombe sur le chemin, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que la semence pénètre? Non, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est trop dur, hein, le terrain est dur. Alors, si le grain est là, qu'est-ce qui arrivera? En Israël et en Palestine, il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux. Et je me souviens d'un matin, à 4h du matin, j'étais levé, mais j'entendais piailler les oiseaux, et ils cherchent la nourriture. Alors, si le semeur est là tôt le matin, et que quelques grains tombent, à côté de la bonne terre, ils sont tout de suite là pour ravir la semence. Ils ne mettent pas longtemps. Hein. Les grains ne vont pas rester là. C'est comme les poules, quand on leur jette le grain, elles picorent. Hein. Eh bien, les oiseaux du ciel, ils prennent la semence. Mais qui sont les oiseaux du ciel, ici, dans cette parabole, d'après Jésus? Les fils du malin. Vous avez lu. Donc, là, les oiseaux sont comparés aux fils du malin, aux démons, et qui viennent enlever la semence. C'est une chose aussi qu'il faut bien comprendre, mais c'est le Seigneur qui nous le dit. Parce que vous verrez d'autres oiseaux après dans d'autres paraboles. Il faut savoir ce que représentent les oiseaux. Parce qu'à première vue, ça pourrait représenter les oiseaux du ciel, quelque chose de bon, hein. Mais là, il faut voir ce que le Seigneur a dit et se soumettre. Les oiseaux du ciel qui viennent représentent le malin. Puis il y a aussi, comme autre obstacle, le soleil. Quand le soleil, qui est pourtant une bénédiction, mais si vous prenez trop de soleil, qu'est-ce que cela vous fait? Vous brûlez, hein? Et ça peut être très mauvais. Alors, il faut faire attention aussi. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore comme obstacle? Donc on a vu les oiseaux qui peuvent mettre en échec la semence, puisqu'ils la mangent. Le soleil qui peut brûler la petite tige qui n'a pas de racine. Et puis, les épines. Et les épines, il est dit qu'elles étouffent la semence. Alors, il nous faudra savoir maintenant qu'est-ce que représente le chemin, qu'est-ce que représentent les endroits pierreux, qu'est-ce que représentent les épines et qu'est-ce que représente la bonne terre. Parce qu'il y a aussi la bonne terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Alors, avant de parler du verset 10 au verset 17, nous allons prendre tout de suite l'explication que Jésus donne. Et après, nous reviendrons au pourquoi le Seigneur parle en parabole. On est au verset 18. Hein. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Donc vous pouvez être sûr de cet enseignement. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, c'est-à-dire la parole du règne, cette bonne nouvelle, et qu'il ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Alors, prenons les autres évangiles. Ce que vous avez lu dans Marc, est-ce que ça vous donne un peu plus de lumière? Verset 13, nous trouvons là le commencement de l'explication dans Marc. Le semeur sème la parole, verset 14. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc, les oiseaux là, on sait qui c'est Satan. Ça, c'est un triste oiseau. Il vient et il enlève tout de suite la parole à ceux qui sont au bord du chemin. Maintenant, prenez dans Luc, pour essayer de mieux comprendre encore, au chapitre 8, qu'est-ce que vous avez lu? Verset 12. Donc, verset 11, la semence, c'est bien la parole de Dieu, hein, c'est clair. Mais ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Donc, cette parabole nous présente quatre genres de personnes. Des gens qui entendent. Donc, on a entendu la parole. C'est des gens qui entendent, et puis c'est quoi encore? C'est des gens qui l'ont entendu. Et encore? Pas là, on est toujours dans le chemin, le premier terrain. Ils ne la comprennent pas. N'est-ce pas? Matthieu dit qu'ils ne l'ont pas compris. C'est un homme qui a écouté. Donc on peut écouter la parole. Hein. Il y a des gens qui écoutent la parole. mais ils ne la comprennent pas. Et pourquoi ne la comprennent-ils pas? D'après ce qu'on lit dans Marc et dans Luc, et pourquoi est-ce que la parole n'est pas entrée dans leur cœur? Ils l'ont entendue, elle est tombée sur eux, cette parole, mais elle n'est pas entrée. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le chemin? C'est là. Qu'est-ce que c'est qu'un chemin? C'est une route où l'on passe et repasse. Le monde y passe. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas? Parce qu'on est préoccupé d'autre chose. Et sur un chemin, on ne s'arrête pas. On ne fait que passer. On ne fait que passer. Alors, on vient à une réunion, parce qu'on nous a invités, peut-être. Alors, on a entendu, mais enfin, on est préoccupé de toute autre chose. C'est le monde qui passe dans notre cœur. Notre cœur est-il un chemin? C'est là la question que vous devez vous poser. Ou le cœur de ceux auxquels vous vous adressez ressemble-t-il à un chemin? Qu'est-ce qui occupe le chemin? Les choses du monde qui passent et qui repassent. Alors, il y a un endurcissement. Et quand il y a l'endurcissement, la parole ne pénètre pas et n'a aucun effet. Mais est-ce que c'est la faute du semeur? Non. Est-ce que c'est la faute de la semence? Non. C'est notre cœur qui est responsable. Qu'y a-t-il dans notre cœur? Notre cœur n'a pas été labouré. Et voyez-vous, c'est pour cela que Jean-Baptiste avait été envoyé avant pour labourer les cœurs. Et comment est-ce qu'on laboure un cœur? Comment est-ce qu'on voit qu'un cœur est labouré? C'est quand il y a la repentance. Mais tant que vous êtes orgueilleux, sûr de vous-même, la parole de Dieu ne peut pas entrer dans votre cœur. Il faut que vous soyez labouré, que votre cœur soit brisé. Dieu ne résiste qu'aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, voilà, le premier échec concernant l'action de la parole, c'est un cœur dur. C'est un cœur qui aime le monde. C'est un cœur qui n'a de place que pour le monde. Sur le chemin, c'est le monde qui y passe. Voilà un premier enseignement. Maintenant, le deuxième terrain, c'est celui qui reçoit la parole, la semence, dans des endroits pierreux. La terre, donc, est peu profonde. Et ce qui caractérise ce deuxième personnage, puisqu'il est question de personne, c'est qu'on entend la parole, et qu'on la reçoit avec joie. Vous avez ça dans les trois évangiles. Et vous vous dites, mais c'est merveilleux. Et c'est la plupart du temps ce qui se passe dans des grandes réunions d'évangélisation. On vous présente la parole d'une certaine manière, avec peut-être tout un conditionnement musical. Les gens se disent, tiens, mais c'est pas si mal que ça. Et le message, c'est le message de la grâce, le message que Dieu pardonne vos péchés, que si vous acceptez le Seigneur, eh bien, il sera dans votre vie avec toute sa puissance, vous serez aidé, vous serez consolé dans vos afflictions. Au fond, vous allez faire une bonne affaire en acceptant un Jésus comme votre sauveur, c'est vraiment une bonne nouvelle. Toutes les crasses que vous avez commises, eh bien, le Seigneur les a pardonnées, il a porté vos péchés sur la croix. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle, et ça vous arrange, vous recevez la parole avec joie. Il y a une façon de présenter la parole, et qui donne tout de suite de la joie. Mais, je dirais que, là où la parole est prêchée comme elle doit être prêchée, c'est pas d'abord de la joie qu'elle apporte. qu'est-ce qu'elle apporte? De la tristesse. Tout à coup, quand vous présentez tout le conseil de Dieu, non pas simplement le petit salut, acceptez Jésus-Christ et vous serez sauvé, acceptez Jésus-Christ et vous n'irez pas en enfer, c'est pas par vos œuvres que vous pouvez être sauvé, mais c'est en croyant au Seigneur Jésus, bah, ça vous paraît assez facile, et vous vous dites, bah, là je fais une affaire, puis ça ne peut pas me faire de mal, de toute façon. Alors, on vous dit maintenant, chantez avec nous, et on vous fait chanter des choses que vous ne réalisez pas du tout. Des petits cœurs, et on aime les petits cœurs, et on aime gratter la guitare, hein. Et puis vous aussi, vous savez gratter la guitare, vous avez chanté toutes sortes d'idioties sur votre guitare, toutes sortes de choses profanes, mais voilà, maintenant vous savez aussi gratter sur votre guitare des choses spirituelles, alors on vous prend immédiatement, parce que vous êtes un bon guitariste, et puis vous voilà embarqué pour de l'évangélisation, hein. Alors c'est merveilleux, et puis l'évangéliste est tout heureux, parce qu'il a fait le compte des âmes, le compte de ceux qui se font avancer, mais voilà, qu'est-ce qui a été touché? Vos émotions, vos sentiments seulement. Mais voilà, une fois que vous continuez à vivre dehors, dans le monde, qu'est-ce qu'il arrive? Ben ça chauffe, hein, le soleil est là. Et c'est pas seulement juste au matin, c'est pas seulement l'aurore où on supporte encore de ne pas être à l'ombre, mais maintenant que le soleil est là, on cherche de l'ombre. Et vous qui vouliez témoigner de votre conversion, vous n'avez plus tellement envie d'en témoigner, hein. Vous allez plutôt à l'ombre, parce que ça risque de chauffer. Et ça ne tient pas parce qu'il n'y avait pas de racines profondes. Il n'y a pas eu une vraie repentance. Et quand il n'y a pas eu une vraie repentance, il n'y a pas une réelle conversion. Ce n'est pas des gens qui ont perdu leur salut, mais c'est des gens qui ne l'ont jamais eu réellement. Le Seigneur n'a jamais trompé les âmes. Quand lui annonçait la parole, il disait à ceux qui voulaient le suivre, tu veux me suivre? Mais tu sais où tu vas aller? Prends ta croix et suis-moi, mais tu vas à la mort, tu vas où je vais, parce que Jésus, il allait où? À la mort, il allait au calvaire. Il n'a pas cherché à ce que les foules l'acclament. Pourtant, il y a eu des moments où les foules l'ont acclamé. Souvenez-vous du jour des rameaux. Quand Jésus, après 3 ans de ministère, descendait la colline des Oliviers, la foule criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et à ce moment-là, est-ce que Jésus a acclamé, a battu des mains? Mais c'est formidable, voilà, victoire, il lève les bras au ciel, il dit « C'est la victoire, maintenant j'arrive à Jérusalem. » C'est ça? Nous on dit « Acclamez le Seigneur », alors tout le monde l'acclame. C'est facile de manipuler les foules. Et même dans les milieux évangéliques, c'est tellement facile d'être un manipulateur évangélique. Attention à cela. C'est dangereux. Parce que nous trompons les âmes sur ce qu'elles sont. Nous faisons acclamer le Seigneur. Puis quelques jours après, ces mêmes foules, qu'est-ce qu'elles ont dit? Ça se passait le dimanche, le premier jour de la semaine, le jour des rameaux. Et le vendredi, qu'est-ce qu'on disait? Crucifie-le, crucifie-le. Personne n'a élevé la voix pour prendre la défense du Seigneur. Voilà les foules. Et voilà tout à coup, il n'y a plus rien. Quand Jésus seul. De sorte que quand Jésus a été ainsi acclamé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Ben, si nous, évangélistes, nous avions davantage les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous ne nous laisserions pas prendre par un bain de foule pour nous dire c'est fantastique, le réveil est là, comme on le dit maintenant partout, n'est-ce pas, ça va jusqu'en France, grand réveil au Québec, les âmes se convertissent en des multitudes. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a de profond? Je souhaite de tout mon cœur que ce qui se passe au Québec, parce qu'il se passe quelque chose, soit quelque chose de profond, mais il faut encore autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui. Et toute cette exaltation et tous les festivals qui se suivent les uns après les autres. Ce n'est pas de cela qu'il est question quand des multitudes sont dans la souffrance et meurent, que le Seigneur nous donne de revenir aux instructions de sa parole. Donc, le deuxième terrain, ce sont ceux qui sont touchés dans leurs sentiments, dans leurs émotions, où ils reçoivent la parole avec joie, mais ça ne tient pas. Et au fond, pour moi, c'est tellement dangereux que je dis que cette méthode, cette manière d'exalter les gens, ça les vaccine contre une réelle conversion. Parce qu'ils disent, « Oui, mais moi aussi j'ai entendu ça après coup. Hein. Moi aussi je me suis avancé. Moi aussi j'ai pris une décision. » Et puis, ils n'y croient plus. Parce qu'ils ont appris un peu à se connaître. Ils n'ont pas pu résister aux premières épreuves. Voilà le deuxième terrain. Donc, quand la parole de Dieu, souvenez-vous bien de cela, est vraiment prêchée telle qu'elle doit être prêchée, que les vérités sont données comme le Seigneur les donnait, si vous voulez me suivre, vous aurez la souffrance, vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Il nous donne l'assurance aussi de la victoire, mais il nous dit que nous aurons des épreuves, et nous sommes avertis de cela. Alors, ça peut tenir. Maintenant, il y a un troisième terrain. Cette parole qui nous a fait peut-être pleurer sur nos péchés, cette parole, quand elle opère vraiment, elle nous donne une tristesse qu'on ne regrette pas. Hein. La parole de Dieu nous amène à une repentance, à une tristesse qu'on ne regrette pas, parce qu'alors on a la vraie consolation du Seigneur et qui demeure. Mais le troisième terrain de la parabole, c'est les épines. Il y a des grains donc qui sont tombés dans les épines. Et qu'est-ce que sont ces épines? D'après le chapitre 13, verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, donc tous entendent, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Là, il y a deux choses qui sont mentionnées. Les soucis du siècle. Et puis, les richesses. Le désir de devenir riche. Soucis du siècle, tromperie des richesses, d'après Matthieu, c'est une tromperie les richesses. Puis, dans l'évangile de Marc, il est parlé encore des convoitises à l'égard des autres choses. Notre cœur n'est pas entièrement pour le Seigneur, on écoute, on a reçu la parole, mais notre cœur est partagé. Il y a des convoitises encore, d'après Marc. Puis, dans Luc, qu'est-ce qu'il est dit? Les voluptés de la vie. Ou les plaisirs de la vie. On ne peut pas se décider totalement. Alors, on se dit, oui, c'est vrai tout cela, cette parole, elle est vraie, je devrais la croire, mais voilà, on n'est pas vraiment décidé entièrement pour le Seigneur. Et la parole, la semence, ne vient pas à maturité. Il n'y a pas besoin d'allonger là-dessus. Maintenant, vous avez enfin la bonne terre. Et la bonne terre, qu'est-ce que c'est? D'après Matthieu, c'est celui qui entend, c'est celui qui comprend et c'est celui qui porte du fruit. Dans Marc, il est parlé de ceux qui entendent, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Dans Luc, il est parlé d'un cœur honnête est bon. Qu'est-ce que c'est un cœur honnête? Un cœur honnête, c'est un cœur qui accepte ce que Dieu dit de ce cœur. Un cœur honnête, c'est pas parce qu'il est honnête de nature. Un cœur honnête, c'est un cœur qui s'est laissé sonder par Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit du cœur? Jérémie, chapitre 17. Le cœur est trompeur, par-dessus tout, tortueux. Qui le connaît? Moi, l'Éternel, je le connais. Eh bien, un cœur honnête, c'est un cœur qui reconnaît que c'est vrai. Et que c'est vrai ce que Jésus a dit, que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères, et les meurtres, les envies, la fraude, la calomnie, tout cela sort du cœur. Eh bien, un cœur honnête, c'est un cœur qui reconnaît que cela est vrai. Et alors, ce cœur honnête est bon parce que qui est-ce qui est bon? Dieu seul, hein. Un cœur honnête est bon, c'est un cœur qui reconnaît que je suis mauvais, c'est ça l'honnêteté, hein. Je suis un homme mauvais de nature. Et puis, si mon cœur est bon, qu'est-ce qu'il dit? Dieu seul est bon. Je reconnais que Dieu seul est bon et que moi je suis mauvais. Voilà ce cœur honnête et bon. Il accepte le jugement de Dieu sur lui-même, sur son cœur. Et c'est cela que nous devons prêcher quand nous annonçons l'Évangile. Alors, la parole peut produire, mais même dans cette bonne terre qui a été donc labourée, qu'est-ce que nous constatons? Des différences. Hein? Chez les gens qui reçoivent la parole, qui croient et qui sont donc sauvés, qui sont nés de nouveau, il y a pourtant des différences. C'est pas 100% chez tous. Pour les uns, c'est 100%, pour les autres, c'est 60%, et pour d'autres, hélas, ce n'est que 30%. C'est tous des sauvés, mais nous voyons qu'il y a, parmi les sauvés, des différences. Le cœur qui produit 100, eh bien, ça sera le chrétien spirituel, qui est dirigé par l'esprit. Celui qui n'apporte que 60, ce sera ce que l'on pourrait appeler le chrétien psychique, et qui est encore tellement conduit par son âme, par ses sentiments. Oui, il est au Seigneur, mais il obéit surtout à des impulsions qui sont en lui. Alors, il a des moments où il fonce, et puis d'autres moments où il recule, il n'est pas stable, il n'arrive pas encore à cette maturité spirituelle. Il y a encore du partage, alors il n'apporte pas tout au Seigneur. Et puis, il y en a, comme ce fut le cas de Lot. Lot, quel a été son témoignage? Est-ce qu'il a été sauvé, Lot? Oui, mais comme quoi? Comme au travers du feu. Il est juste sauvé. Alors, est-ce que ça vous suffit d'être juste sauvé? Hein? Toutes vos œuvres, ben, il n'y en a pas. Elles sont consumées par le feu. Parce que vous aurez édifié du bois, du foin, du chaume. Mais depuis votre conversion, il est dit que l'œuvre de chacun sera rendue manifeste. Toutes nos œuvres subiront l'épreuve du feu. Alors, bon, eh bien, vous serez sauvé, mais il ne restera rien, rien, juste le salut. J'ai évité, j'ai cru, mais rien n'a été vraiment produit pour le Seigneur. Alors c'est pour cela que dans la gloire, les croyants n'auront pas tous la même part, tous n'auront pas la même récompense. Alors c'est à vous de savoir maintenant qu'est-ce que vous faites de votre vie. Est-ce que votre vie sera entièrement consacrée au Seigneur, ou bien est-ce que vous dites, non, mais moi je fais encore une part pour le monde? 100, 60 ou 30? Il y a différentes classes de chrétiens. Eh bien, puissiez-vous comprendre qu'il est question que dans l'Église de Dieu, nous produisions non seulement du fruit, mais plus de fruits, beaucoup de fruits, et du fruit qui demeure, comme il l'est dit dans le chapitre 15 de Jean. Mais pour cela, il faut laisser le divin jardinier couper les branches gourmandes. Hein. Il faut laisser le vigneron tailler dans la vigne. Et plus il coupe de branches, mieux les fruits seront. Les fruits seront plus beaux et plus nombreux. Parce que tout ce qui est de trop a été taillé. C'est laisser faire le vigneron pour qu'il y ait une bonne récolte. Donc, dans cette parabole, ce que vous voyez et ce que nous aurons à considérer cet après-midi, est-ce qu'il est question que l'Évangile, quand il est annoncé, la parole, la semence, est-ce qu'elle va convertir le monde entier? Sur quatre terrains, combien produit le fruit? Un. Donc, ce n'est pas par la prédication de l'Évangile que le monde va être converti. Il faut bien s'en rendre compte. Mais là où la parole est reçue, ce qui importe, c'est qu'elle produise du fruit. C'est que dans vos vies, le règne du Christ soit un règne entier, soit vraiment total. C'est que Dieu puisse faire avec vous toute sa volonté, comme il a pu le faire avec Marie, la mère de notre Seigneur, qui a dit « qu'il me soit fait selon ta parole ». C'est se laisser faire par le Seigneur. Tu es digne d'avoir tout mon cœur. Alors maintenant que nous avons cette grande fresque sur les semailles, et que nous savons qui est le semeur, quelle est cette semence, pourquoi la semence ne produit pas dans certains cœurs, ce n'est pas à cause de la semence, ce n'est pas la semence qui est en défaut, c'est le cœur. De sorte que nous devons accepter la préparation du cœur. Et cette préparation, elle est à l'Éternel. Est-ce que nous allons laisser le Seigneur faire ce qu'il veut de notre cœur? Bien, si je le laisse faire, eh bien, il va me briser, il va m'humilier, alors j'accepte. J'accepte les épreuves, j'accepte les souffrances, parce que je sais que la pensée du Seigneur, c'est de me faire porter du fruit. Mais maintenant, les disciples sont étonnés du langage que le Seigneur emploie. Verset 10. Ils s'approchent et lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole, c'est-à-dire par des comparaisons? Alors, Jésus leur répond, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Il a donc été donné à qui de connaître ces mystères? À un petit groupe. Et si vous vous souvenez, qui font partie de ce petit groupe? C'est des hommes qui attendaient quoi? Ou qui? Le Messie. C'était un petit groupe de personnes qui étaient ou disciples de Jean, mais qui conservaient dans leur cœur les promesses de l'Ancien Testament. Mais si la grâce leur est faite, c'est vraiment un don de Dieu. À vous, il a été donné. Il n'est pas dit que vous l'avez mérité. C'est pas des gens qui ont mérité quelque chose. Nous ne méritons rien. Mais si nous comprenons la parole, c'est que cela nous a été donné. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Donc, s'il vous a été donné la grâce de croire, louez le Seigneur. C'est une grâce qui vous est faite. Mais ne vous enorgueillissez pas en disant, moi j'ai compris. Si vous avez reçu la parole, si vous l'avez acceptée, c'est une grâce. Il vous a été donné de comprendre les mystères, de connaître les mystères du royaume des cieux. cela ne leur a pas été donné. Mais alors, est-ce qu'il y a de l'injustice? C'est la première chose qu'on se demande. Bien non, les foules sont intéressées par l'évangile peut-être, mais est-ce que vraiment elles recherchent ce que Dieu veut? Parce que vous voyez, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, tout le monde dit Seigneur. Tout le monde dit Seigneur. Mais ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et c'est verset 12. Car on donnera à celui qui a. Et qu'est-ce que c'est qu'avoir? Avoir, c'est croire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit, il a. N'est-ce pas? Alors, ces premiers disciples, c'est des gens qui ont cru. Alors, ils ont. Ils ont parce qu'ils ont cru. C'est là. Car on donnera à celui qui alors, celui qui croit, il peut s'attendre à recevoir d'autres choses. Car le Seigneur dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est tout à fait normal. Si vous avez la vie, le Seigneur vous la promet avec abondance. Donc, il y aura un accroissement de vie si vous avez vraiment cru. Mais à celui qui n'a pas, on montrera même ce qu'il a. Celui qui n'a pas, c'est celui qui a eu la connaissance, mais qui ne l'a pas reçu, qui n'a pas vraiment cru. Alors, cela même qu'il a, cette connaissance lui sera ôtée. On deviendra de plus en plus aveugle. Si vous ne voulez pas croire la parole que vous avez entendue, donc vous n'avez pas. Mais cette connaissance que vous avez entrevue vous sera même enlevée. Si tu endurcis ton cœur comme le pharaon l'a endurci, qu'est-ce qui va arriver? C'est Dieu qui lui endurcira votre cœur. Mais ce n'est pas une injustice, c'est simplement qu'on ne se moque pas de Dieu. Celui qui n'a pas, eh bien, on ôtera même ce qu'il a. Cette soi-disant connaissance ne produira rien. Ça lui sera ôté. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce que en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Alors, à quoi ressemblent-ils, ces gens qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont un cœur qui ne comprend pas? Ça ressemble à quoi? À des idoles. Hein? Une idole, elle a des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, hein? Une bouche qui ne parle pas. On ne confesse pas le nom du Seigneur. Oh, on a entendu, mais on ne veut pas confesser son nom, hein, parce qu'on a peur, parce qu'on a honte. Alors, on est comme une idole muette. On a des yeux, on ne voit pas. Et c'est un verset fantastique. Dans le psaume 115, il est parlé des idoles. Elles ont une bouche, elles ne parlent pas, elles ont des yeux, elles ne voient pas, elles ont des mains, elles ne touchent pas. Ceux qui les ont faites sont comme elles. Hein. Tous ceux qui les ont fabriquées, ces idoles, elles sont, ils sont comme elles. Alors, ça veut dire que si vous êtes comme une idole, c'est que vous les avez vous-même faites. Donc, vous gardez vos idoles et vous devenez semblable à une idole. C'est cela. Je reste un idolâtre. Avec mon baptême, avec tout ce que j'ai reçu, soi-disant, eh bien, j'ai des yeux, je ne vois pas. Je suis comme une idole, parce que dans mon cœur, il y a l'idolâtrie. C'est ça. C'est en moi que se trouve tout cela. Et alors verset 14, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendez de vos oreilles, c'est ce qui était dit dans le chapitre 6, et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. C'est pas Dieu qui a voulu cela. Mais Dieu a voulu le salut du peuple juif. Hein. Il a envoyé des prophètes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les prophètes? Ils les ont tués. Ils n'ont pas voulu lire la loi même. Ils n'ont pas voulu l'entendre. Et vous voyez encore des gens aujourd'hui, quand on leur dit de lire la Bible, ah, ils disent, oui, c'est très bien que maintenant, dans l'Église catholique, on ose aussi lire la Bible. Mais quand on leur demande, mais est-ce que vous la lisez? Ils ne la lisent pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne la lisent pas? Parce qu'ils ont peur de ce qu'elle va dire et de comprendre ce qu'elle leur demande, c'est de se repentir. C'est de changer leur mode d'existence. Parce qu'on ne peut pas lire la parole et ne pas se voir. La parole est comme un miroir. Et quand je la lis, quand je me vois, je commence d'avoir horreur de moi et je me dis, je suis perdu. Ce que la parole de Dieu montre à un homme, c'est qu'il est perdu. Et alors, j'ai mieux ne pas le savoir. Hein? Parce que si je commence à la lire, je m'en vais comprendre. Je m'en vais savoir. Alors, j'ai mieux fermer les yeux. Vous pouvez fermer les yeux. Ça n'empêchera pas le danger. C'est cela que vous devez bien comprendre. Et alors, les prophètes ont connu cela en Israël. Dieu a patienté. Il leur a, les a avertis par un Ésaïe, par un Jérémie, par d'autres. Mais ne mettez pas votre confiance dans des paroles de mensonge. Vous dites, mais on a le temple de l'Éternel, on a le temple de l'Éternel. Nous pratiquons notre religion. Ce n'est pas ces pratiques qui me plaisent, dit le Seigneur. Même vos cantiques, ils me cassent les oreilles. Vous ne faites plus que du bruit dans votre musique. C'est du bruit et du bruit. Cessez le bruit de vos cantiques. Je ne puis plus supporter ces choses, me dit le Seigneur. Parce que, en même temps, vous faites les 100 coups. Hein? Vous chantez les cantiques. C'est pour ça que j'ai dit quelquefois, on blasphème plus dans nos milieux évangéliques, souvent, que dans les tavernes de Montréal et d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on chante des paroles qu'on ne met pas en pratique. Alors on blasphème. C'est pourquoi il ne faut pas faire chanter n'importe quoi à n'importe qui. Je n'ai rien contre des chœurs de ceux qui sont vraiment au Seigneur et qui par le cantique, par le chant, vont témoignage. Mais vouloir faire chanter n'importe quoi à n'importe qui, c'est les faire blasphémer. Et ils ne s'en rendent pas compte. Dieu dit, mais c'est un blasphème. Ils disent ces choses, et quand je vois ce que sont leurs vies, c'est tout le contraire. Alors, c'est là le grand enseignement. C'est pourquoi le Seigneur disait les choses en parabole pour amener les gens. Ce n'était pas facile. Il fallait sonder les Écritures. Il fallait méditer. Il fallait se dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, le Seigneur? Maintenant, on veut tout vous faciliter. On vous fait même répéter la prière. Vous croyez que j'ai besoin d'apprendre un petit enfant à crier quand il naît? S'il a la vie, il crie. S'il a la vie, il crie. Quand quelqu'un a la vie, même s'il n'a jamais prié, il sait ce que c'est qu'il doit dire au Seigneur. Quand vous êtes en train de vous noyer, eh bien, vous savez dire « Sauve-moi » si vous voyez quelqu'un. Vous criez à lui, vous tendez la main. Mais tout ce que Dieu aurait voulu, c'est de les guérir. Alors, quand vous reprenez, et c'est cela, la parole qui s'explique par la parole, la prophétie d'Ésaïe, allez-y dans Ésaïe chapitre 6. Vous qui vous demandez, mais est-ce qu'il y a de l'injustice en Dieu? Dieu a patienté avec Israël. Il a voulu qu'ils se convertissent. Il leur a montré comment ils pourraient être guéris. Mais ils n'en voulaient pas de cette guérison. Pour quelle raison? Parce qu'ils voulaient suivre leur propre voie. Verset 9 du chapitre 6 d'Ésaïe. Va, dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point, ne soit guéri. Et je dis, mais jusque-là quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore le dixième d'habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. C'est une prophétie concernant Israël. Israël devait recevoir le Messie. Le Messie est venu. Il n'a pas été reçu. Malgré tout ce qu'ils ont pu voir, malgré tout ce qu'ils ont pu entendre, ils ne l'ont pas reçu. Et alors Israël a été mis de côté. L'évangile a été annoncé à qui? Aux nations. Mais est-ce que c'est tout à fait fini pour Israël? Non. Et il est bien prophétisé ce qui va arriver à Israël jusqu'à ce que les villes soient détruites. Tout ça, ça a été déjà détruit après le rejet du Seigneur. En l'an 70, la ville a été détruite et le peuple a été dispersé. Maintenant, il est question d'un renouveau en Israël, d'un retour des Juifs en Israël. Mais ces gens qui reviennent ne sont pas encore convertis et ils doivent passer par la fournaise. Mais de cette fournaise, de cette tribulation qui vient, dont on aura l'occasion de parler, il va sortir du fruit pour Dieu. C'est quand les jugements de Dieu sont sur la terre que les habitants du monde apprennent la justice. Or, dans notre société de consommation, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? La justice? Le règne du Christ? Parmi les baptisés? On voit l'injustice. Et qu'est-ce qu'on voit encore? La souillure. La froideur, la tiédeur. Alors, il faudra peut-être les jugements. Et c'est là, dans ces pays où il y a les jugements terribles qui sont tombés sur des peuples, qu'il y a les plus grands réveils et les plus profonds. C'est dans la souffrance que le Seigneur peut vraiment agir. Et nous finissons. Heureux, verset 16, sont vos yeux parce qu'ils voient. Oh, si vous avez cru, vous êtes heureux. Et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Et c'est vrai, tous les prophètes qui avaient annoncé la venue du Seigneur, il est dit dans l'épître de Pierre, au chapitre premier, que toutes ces choses qu'ils annonçaient, eh bien, étaient l'objet de leurs préoccupations. Verset 10 du chapitre premier. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous sont annoncées maintenant que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par l'Esprit Saint envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Voilà, ces prophètes, ils n'ont pas vu ces choses, mais ils les ont annoncées et ils se sont réjouis pour ceux qui les verraient et qui les entendraient. Eh bien, vous donc, écoutez la parabole du semeur. Est-ce que vous l'avez comprise? Est-ce que nous la comprenons? C'est le commencement. Cet après-midi, nous allons aller un pas plus loin et nous étudierons la parabole de l'hybride qui est jeté dans les semailles qui ont été faites par le Seigneur. Et puis, nous verrons aussi la petite semence qui devient un grand arbre et le levain qui fait lever toute la pâte. Ce sera là notre étude de cet après-midi, les trois paraboles qui sont encore annoncées à la foule qui écoute le Seigneur Jésus. Ô Dieu notre Père, nous voulons te demander que nous puissions retenir par ton esprit ce que tu as voulu nous enseigner et que nous puissions nous rendre compte de ce qu'est notre cœur. Un chemin endurci où passe et passe et repasse le monde et ses convoitises, où un sol pierreux, nous aimons entendre la parole, elle nous donne d'abord de la joie, mais ensuite nous le savons bien, nous ne pouvons pas résister aux tentations, aux persécutions. Les soucis de ce siècle, notre avenir, l'argent, les richesses, les plaisirs, les voluptés, est-ce cela qui nous empêche de croire? Oh, donne-nous de nous laisser labourer. Permets que cette semence tombe dans une terre que tu as travaillée. Nous voulons te demander que réellement le Saint-Esprit nous travaille, qu'il travaille mon propre cœur aujourd'hui pour que je puisse être utile à d'autres jusqu'à ce que tu viennes. Amen.